Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Alain Bauer. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers et vous publiez avec Marie Drucker le tome 2 de Au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crible. C'est chez First Edition. On va en parler dans un instant. Je voudrais évoquer avec vous l'actualité. Un adolescent de 15 ans décédé après avoir été victime d'un déchaînement d'ultra-violence près de son collège à Viry-Châtillon. Deux jours après l'agression de Samara à Montpellier, ou encore Shannon, 14 ans, dans l'Oise, morte après avoir été violée et qui sera enterrée aujourd'hui. Le point commun, Alain Bauer, de ces affaires, est-ce que c'est l'ultra-violence ou est-ce qu'il ne faut pas essayer de faire un lien entre ces différentes affaires ?
Alors d'abord, j'ai toujours eu un problème avec les néologismes parce que je ne sais pas ce que c'est que l'ultra-violence. Il s'agit là d'une violence homicide. Et il se trouve que les homicides, c'est ce qu'on sait le mieux compter depuis qu'on a un état civil en France, depuis 1539. Et donc, on a une indication claire de ce qu'a été l'amélioration extraordinaire, la domestication, le contrôle de l'homicide en France par la civilisation et la civilisation des mœurs, où on est passé de 150 homicides pour 100 000 habitants en période de paix à 1. Une extraordinaire évolution et un retour de tendance depuis une dizaine d'années. On était à moins de 700 homicides par an en 2011-2012. On est à plus de 1000 l'année dernière. Et surtout, les tentatives d'homicide qui passaient totalement inaperçues car ce n'était qu'un homicide raté, ont atteint le plus haut niveau depuis un demi-siècle l'année dernière avec 5000.
Donc ce n'est pas l'ultra-violence, c'est le retour de la violence.
Et ce dont on parle aujourd'hui sur des jeunes, ou des très jeunes d'ailleurs, c'est ce qu'on disait aussi en parlant des Apaches. On peut revoir Casque d'or en streaming ou en achetant le film, qui montrait très exactement ce qu'était le surinage, les meurtres à armes blanches, et qui étaient en général des affaires de groupe. Donc on est vraiment dans des processus qui sont un retour de la violence, mais pas une
ultra-violence.
Et elle n'est pas ultra, parce qu'on reste malgré tout à des niveaux de contrôle de cette violence. Mais par contre, l'inversion de tendance est une réalité, son accélération est une réalité, son intensification est une réalité, et le rajeunissement est une réalité. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire marche arrière dans tout ce qui a été le contrôle, justement, de la violence individuelle cause juste d'un événement qui est qu'on n'est plus seulement dans la confrontation physique, mais la confrontation virtuelle sur les réseaux sociaux amène à la confrontation physique dans le monde réel.
Vous avez raison, d'ailleurs, dans l'affaire Samara, ça commence sur Snapchat, il est question de voile, d'honneur, la mère raconte que sa fille s'est fait traiter de couffard, de mécréante, avant de se rétracter. On précise que le parquet l'assure, il n'y a eu aucune dimension religieuse dans cette histoire, c'est ce que dit le parquet. Marine Le Pen évoque l'effondrement moral de la société. Est-ce qu'on est dans quelque chose qui ressemble à ça ? Est-ce qu'on doit s'interroger sur notre acceptabilité aussi de cette violence-là ? Pour faire écho à ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale, on a un tout jeune Premier ministre qui dit aussi qu'il veut des mesures extrêmement fortes en vue d'un sursaut de la société et d'un rétablissement de l'ordre partout. On est dans la politique ou...
Oui, bien sûr, mais il vaut mieux qu'il dise ça que l'inverse. Oui. Il fut un moment où on était dans l'acceptation de tout, dans une espèce d'angélisme extraordinaire où tout le monde devait s'aimer, où les règles devaient être assouplies ou supprimées, et où en matière de frontières comme en matière de sécurité ou d'insécurité, grosso modo, ne pas en parler était une manière d'adoucir la réalité. En fait, il y a des victimes, et c'est ça la question centrale. C'est que tout le monde oublie qu'on ne parle pas seulement de violence ou d'insécurité, on parle de victimes, de centaines de milliers de personnes qui sont victimes d'une agression ou d'une confrontation avec un agresseur et qu'on a passé sous silence pendant des dizaines d'années. Cette augmentation de la masse des victimes, de leurs proches, de leurs amis, de leurs enfants, la capacité qu'on a à avoir peur pour ses enfants ou ses proches ou d'entrer dans un univers d'insécurité.
C'est ça qui ébranle le collectif.
Ce n'est pas seulement un sentiment, mais un climat de violence et ce qui a changé. Or, pendant longtemps, l'État a fait comme si ça n'existait pas. Il y avait une trilogie extrêmement intéressante qui était négation, minoration, éjection. Un, c'est pas vrai. Deux, c'est pas grave, vous exagérez. Et trois, à la fin, c'est pas de notre faute, c'est les parents, l'éducation, etc. En fait, c'est grave, c'est vrai et c'est la faute de tout le monde.
Le problème, c'est que là, on est dans l'étape où chacun y va de ses propositions disant c'est la faute des écrans, c'est la faute de l'école qui fait pas son job, c'est la faute des parents.
Vous savez,
cette proposition aujourd'hui, ce matin, de la porte-parole du gouvernement qui dit qu'il faut maintenant des conseils de discipline dès l'école primaire.
Oui, mais la question, elle est moins la discipline que l'acceptation de règles qui permettent de vivre dans des conditions normales de cordialité, de politesse, etc. Tout ceci a peu à peu disparu parce que nous vivons dans une espèce de rageosphère où tout est violence parce qu'on n'accepte plus rien, que tout est une sorte d'individualisation totale et qu'il n'y a plus de règles sociales. Souvent, en criminologie, on explique que pour comprendre un phénomène, c'est assez médical, c'est clinique. Il faut un diagnostic. Le diagnostic doit être partagé, on doit être d'accord sur de ce dont on souffre. Deux, il faut un pronostic qui doit être discuté. Et trois, on a droit à des thérapeutiques qui peuvent être disputées. La France est le pays des thérapeutiques sans diagnostic. Donc tout le monde raconte tout et n'importe quoi. Tout n'est pas faux.
Oui.
Mais tout est un
patchwork.
Le problème,
c'est que les Français, eux, ils attendent des solutions.
Alors, exactement. Ouais. Et les solutions, elles doivent être construites ensemble, pas en punissant les parents ou en punissant les enfants, mais en construisant un outil où il y a de la prévention, de la dissuasion et de la sanction. Et la sanction ne peut pas arriver à la fin avec des dizaines d'interpellations ou de passages devant les tribunaux. On doit sortir de l'alternative à la poursuite et à la peine pour entrer dans un processus de construction intelligent où le but du jeu n'est pas de les remettre dehors, mais plutôt de les remettre
dedans. Et avec des sanctions tout de suite, dès le plus jeune âge, y compris à la maternelle.
La sanction, elle existe déjà à la maternelle, au coin, etc. Aujourd'hui, on vous explique que c'est stressant et traumatisant pour les enfants, mais la sanction n'est pas obligatoirement une punition.
On en vient au bout de l'enquête saison 2, les plus grandes affaires criminelles passées au crible. La dernière fois qu'on s'est parlé, on parlait de l'affaire Émile. Qu'est-ce qui fait qu'une affaire devient une grande affaire criminelle, comme c'est le cas avec l'affaire Émile? Est-ce que c'est la victime, cette image qu'on a tous vue? Est-ce que c'est le nombre de victimes? Est-ce que c'est le profil du suspect? Qu'est-ce qui fait que ça devient une grande enquête qui termine dans la saison 2 de ce livre?
En général, c'est un enfant, ou c'est un auteur, ou c'est une victime. Les trois construisent depuis l'affaire Troppmann au 19e siècle, qui a créé la grande crèche populaire qui feuilletonnait le crime. Depuis cette affaire-là, le public est toujours fasciné. Mais ça existe avant. Vous enlevez le crime de l'opéra classique, du théâtre, du cinéma et des discussions au café le matin, il ne vous reste pas grand-chose. Donc tout ça correspond à un besoin de la société de comprendre la violence et surtout la violence ultime. Mais la mort d'un enfant ou la disparition d'un enfant est l'élément qui cristallise le plus l'opinion et la peur de l'opinion, parce qu'elle peut se projeter sur la victime, car tout le monde a un proche, un enfant, ses enfants, un neveu, un cousin, bref, tout le monde peut se projeter dans cette affaire. Alors, l'enlèvement est la partie qui ensuite amène le feuilleton le plus long, avec la disparition, l'enlèvement, l'assassinat.
Vous revenez sur le baron en pain.
Oui, par exemple, c'est un des enlèvements les plus emblématiques de l'histoire française, dans une série d'ailleurs à l'époque où il y en avait eu des dizaines, tout le monde a oublié le patron de Fiat, etc., des enlèvements qui se terminent bien, plus ou moins bien pour le baron en pain, il a quand même été amputé, pas bien du tout pour ceux qu'on ne retrouve pas, mais ça c'est un feuilleton, c'est-à-dire qu'on suit l'affaire au jour le jour, on est un élément, le public appartient à l'affaire et l'affaire lui appartient.
Et effectivement, il y a des affaires qui trouvent un écho avec des affaires qu'on commente souvent, y compris d'ailleurs sur le plateau de C'est dans l'air, ou comme vous le faites sur France 2 tous les samedis, l'affaire Agnès Leroux.
Oui, on n'a jamais retrouvé personne, c'est une affaire jubilard avant l'heure, ça ne veut pas dire que monsieur est personnellement coupable, il a la présomption d'innocence, mais dans Agnès Leroux, on n'a jamais retrouvé le corps, jamais. C'est un des grands mystères, non pas de qui aurait commis le meurtre, puisque Maître Agnolet a été condamné à plusieurs reprises et son alibi, entre guillemets, a explosé en plein vol, mais en tout état de cause, on n'a pas le corpus délicti. Et vous savez, au bout de l'enquête, moi je dis souvent que c'est dans l'air du crime, c'est-à-dire que c'est un outil pédagogique, c'est pas fait pour faire peur, c'est fait pour comprendre.
Et effectivement, dans le livre, comme ce que vous faites dans l'émission, par exemple, sur l'affaire Alain Lamarre, vous revenez sur la guerre des polices. Et il y a un encadré dans le livre où on se rend compte que, je ne sais pas si c'est le cas dans l'affaire Émile ou ici, il n'y a que la gendarmerie, d'ailleurs peut-être dans l'affaire Émile, mais la guerre des polices, c'est-à-dire la gendarmerie et la police qui ne travaillent pas ensemble.
Oui, alors à l'époque, il faut savoir qu'Alain Lamarre, c'est dans l'Oise, et c'est le deuxième serial killer de l'Oise à quelques années, avec Marcel Barbeau qui a été le premier. Alain Lamarre, le deuxième, c'est un gendarme, donc évidemment ça perturbe énormément l'enquête, comme le Grelet. Le Grelet a été policier et gendarme, et on a mis 35 ans à ce qu'il ne soit pas condamné, il n'est pas coupable. Il s'est suicidé alors qu'il allait être simplement identifié.
Et on a appris dans le livre de Patricia Tourangeau qu'il avait même, pendant ce temps-là, participé à une émission de télé.
Nagui. Mais là, Lamarre, lui, participe à sa propre enquête. Ah oui. Ce qui ne facilite pas tout à fait les choses. Alors, il est atteint d'une maladie très rare qui s'appelait une sorte de schizophrénie extrêmement développée. Et d'ailleurs, il est toujours en unité pour malade difficile. Il n'a jamais été condamné.
Est-ce que ce livre nous éclaire sur l'affaire Émile, sur l'affaire Jubilard? Est-ce que c'est aussi cette vertu-là que
vous... Oui, la vertu, c'est éclairer comment ça marche. Comment ça se passe? Comment pourquoi c'est comme ça? Quels sont les outils qu'on utilise? Quelle est la réalité du code pénal? On n'apprend pas le droit en France, sauf pour les étudiants en droit. Et encore faudra-t-il qu'ils fassent du droit pénal ou de la criminologie. Ouais. Je les invite à faire.
Mais ça voilà. s'est passé à la boire. Mais ça ne se passe pas comme dans les séries américaines.
Non.
C'est aussi ce qu'on apprend.
On ne regarde pas les affaires en 52 minutes avec deux pauses.
C'est ça. Merci beaucoup, Alain Boer. Au bout de l'enquête saison 2, les plus grandes affaires criminelles passées au crible chez ces First Edition. Et on vous retrouve tous les samedis. C'est à quelle heure?
14h ou 15h, ça dépend de France Télévisions, et parfois deux fois
le samedi.
Et c'est toujours sur France 2.
Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. Nous allons revenir sur la tension au sommet de l'État dès qu'il s'agit des finances publiques. Tension entre l'Élysée et Bercy. À tout de suite. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.